Le journal politique de Radio JM.
Isabelle Campagnola-Savon, bonjour.
Bonjour Elsa.
Je suis ravie de vous accueillir pour ce journal politique du lundi matin. Je rappelle juste que vous êtes conseillère régionale à l'économie, conseillère municipale et métropolitaine et responsable départementale pour les Bouches-du-Rhône de Horizon, aux côtés de Patrick de Carolis. On va commencer par une question très simple. Comment va le président Renaud Muselier? Est-ce que ça, il est debout, il marche, il court?
Ah, alors, il court pas encore.
Pas encore.
Je crois pas. Il est debout.
Suite à son opération de la hanche.
Mais bien sûr, il a besoin de continuer à se rétablir pour être en pleine forme dès qu'il va réattaquer prochainement. A priori, je pense, lors de la prochaine plénière.
Bon, ben, très bien. Vous lui transmettrez nos meilleurs voeux de rétablissement.
Ça sera fait avec plaisir.
On va revenir à des sujets plus concrets. Samedi, s'est tenu à Marseille le lancement de la campagne des européennes. Donc, étaient regroupés les différents groupes politiques qui composent la majorité aujourd'hui, qui va composer cette majorité autour de Renaissance pour la campagne des européennes. Donc, il y avait le Renaissance, Horizon, Modem 13, Territoire de Progrès 13 et JAM, c'est-à-dire les jeunes avec Macron. Tous ces partis donc étaient rassemblés ici avec tous les responsables locaux. Il serait intéressant de savoir ce qui s'est dit. Ce lancement, il veut dire quoi? C'est dire nous sommes prêts, voici des fondamentaux de notre campagne. Comment s'est passée cette réunion samedi?
Ben, tout d'abord, c'était un joli moment. Un joli moment d'union, donc c'est important de le rappeler. Oui, à la Coque, nous étions plus de 100 militants rassemblés pour ce lancement de campagne. Donc une campagne d'union de pro-européens. Donc voilà, nous étions tous réunis sous la bannière de Besoin d'Europe. Alors pourquoi Besoin d'Europe? Comme le dit Édouard Philippe, nous sommes persuadés qu'aucun grand défi aujourd'hui ne pourra être relevé sans l'Europe. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe est un îlot de stabilité et de stabilité dans toute sa composante, que ça soit sur l'économie, que ça soit dans toutes les différentes compétences, que ce soit en matière de paix aussi et de démocratie. Et donc, nous avons parlé un petit peu de comment allait se profiler cette campagne avec, comme vous l'avez dit, les principaux responsables départementaux des partis. Et donc, elle va être phasée, cette campagne. Elle va être dans une première phase avec la présentation du bilan, parce que nous avons un excellent bilan et donc il faut le présenter. La deuxième partie sera évidemment la présentation du projet qui arrivera fin mars, début avril. Et enfin, l'incarnation de ce projet à travers la présentation de la liste. Je crois qu'on a la chance d'avoir une candidate qui a tous les atouts.
Qui viendra à Marseille? Sa venue est prévue ou pas?
On n'en a pas discuté pour l'instant. Mmh. Je peux pas répondre par rapport à ça.
Est-ce que c'est important qu'une candidate vienne sur un territoire ou est-ce qu'il est plus important, c'est de rencontrer ceux qui ici en fait la représentent et ceux qui pourraient ici être sur la liste qu'elle portera?
Moi, je crois surtout que le plus important, c'est d'aller nous à la rencontre des citoyens pour expliquer qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que cette campagne européenne et quelle est notre tête de liste et le projet que nous incarnerons demain. Donc je crois que c'est ça qui est important. Nous avons une candidate qui est compétente.
Qui connaît l'Europe.
Elle est députée. Elle a incarné la compétence au sein d'une commission qui est quand même pas très, très fun, qui est la commission budget. Et donc aujourd'hui, nous avons cette chance-là d'avoir plutôt la compétence que la connaissance de la personnalité de Valérie Ayé. Donc je crois que là-dessus, elle a tout notre appui, tout l'appui d'Horizon, bien entendu, car cette Europe, nous en avons besoin. Et comme le dit Valérie Ayé, nous avons besoin d'une Europe qui soit fière, d'une Europe qui soit forte, d'une Europe qui soit souveraine, d'une Europe indépendante, mais surtout d'une Europe libre.
On a souvent l'impression qu'il est difficile d'expliquer le travail de l'Europe, en tout cas que les gens n'y voient pas une contrainte. Souvent, on nous dit « oui, mais les normes européennes, oui, mais c'est l'Europe qui alourdit les choses ». On l'a beaucoup entendu récemment avec les agriculteurs, même s'il y a une véritable volonté de l'Europe de simplifier les choses aujourd'hui affichée. Est-ce que c'est ça que vous rencontrez le plus comme propos? Est-ce que c'est ce qu'on vous dit « mais non, pour nous, l'Europe, on a l'impression que c'est une contrainte ».
Oui, je pense que l'Europe est mal connue, mais il faut savoir une chose,
c'est que... Mal expliqué, peut-être.
Mal expliqué. Alors, probablement que le fait d'avoir moins de proximité avec un élu eurodéputé fait que les personnes arrivent moins à avoir justement ces échanges et comprendre comment fonctionne l'Europe. Il est important de rappeler quand même que l'Europe, elle fonctionne à différents strates,
Bien sûr.
Que ça soit au niveau de l'État français, de la région et des communes. Moi, je voudrais quand même rappeler que au niveau de l'État, l'Europe nous a protégés pendant la crise du Covid. Elle nous a protégés et nous a permis de sauver l'économie de notre territoire. Elle nous a permis d'avoir une production de vaccins très rapidement et elle nous a permis également de réagir de manière commune quand les Russes ont attaqué l'Ukraine. C'est une Europe qui nous protège et ça, c'est le message que nous devons diffuser auprès des citoyens. Après, quand on descend à la strate de la région, ce sont des fonds européens qui sont absolument nécessaires aujourd'hui pour nous permettre d'avoir l'aboutissement de projets concrets sur notre territoire. Nous en avons capté 5 milliards lors de la précédente mandature. Aujourd'hui, nous avons un président, Renaud Muselier, très performeur. Et donc, nous visons aujourd'hui les 10 milliards d'euros. Ça, c'est très concret. On le voit, par exemple, sur les connexions électriques à quai pour les navires, où on demande 10 millions d'euros de l'Europe. Mais aussi, les communes peuvent s'emparer de fonds européens. Donc, nous avons l'expertise parce que nous avons la chance d'avoir un président de la région qui est un ancien eurodéputé, donc qui a les réseaux, qui sait comment faire pour structurer les dossiers, pour permettre de capter le maximum de fonds européens. Les communes, on leur propose de faire la même chose, de les aider. La ville de Marseille, visiblement, n'y arrive pas. On leur a proposé de mettre un permanent à Bruxelles, puisque nous avons un bureau permanent à Bruxelles pour pouvoir travailler, de manière à leur tendre la main et à permettre aux Marseillais de bénéficier également de ces fonds européens. Malheureusement, comme d'habitude, ils n'ont pas répondu. Et c'est dommage parce que c'est les Marseillais qui en payent le prix.
Donc pour vous, l'ennemi de l'Europe, c'est la méconnaissance ?
C'est la méconnaissance, oui.
Et donc, très clairement. Travailler cette... D'ailleurs, on vous a vu depuis quelques semaines, pas seulement vous, dans des réunions un petit peu partout. Horizon va un petit peu partout dans les Bouches-du-Rhône pour débattre, pour essayer d'étayer justement les connaissances de chacun sur des sujets qui préoccupent nos concitoyens et aussi pour parler Europe, je présume.
Bien sûr, pour parler Europe, tout à fait. Ouais. Non, l'Europe est absolument nécessaire. On a besoin de l'Europe et elle a besoin de nous. C'est vraiment... et puis, on le voit bien avec le conflit de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette grande puissance qui nous préserve.
Il faut juste que tout le monde soit d'accord.
C'est pour ça que c'est la réflexion que doivent avoir les citoyens, de savoir qui ils vont envoyer demain à l'Europe.
Savoir qui on va envoyer, bien évidemment. Et c'est vrai que quand on voit les sondages sur les élections européennes, qui, rappelons-le, auront lieu, le deuxième tour, c'est le...
Non, il n'y a qu'un tour.
C'est le 9
c'est
juin.
C'est le 9 juin. Il faut rappeler, c'est vrai, le 9 juin est important. C'est la date des élections.
Juin,
c'est qu'un seul tour.
Ce sera les élections européennes. Le Rassemblement national est crédité de 30% normalement de vote. C'est vrai que ça paraît énorme. Et du coup, c'est aussi un des sujets de la campagne qui est menée par vos partis. Aller contre contre la représentation d'une trop forte d'un Rassemblement national à l'Europe et des droites extrêmes en général en Europe.
Bien sûr, là je crois que je vais avoir un message très clair et très direct, Elsa. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation de guerre froide, mais dans une guerre chaude. Et donc, la question est la suivante. Qui mettons-nous à l'Europe ? Est-ce qu'on va mettre des gens qui sont financés par Vladimir Poutine ? Est-ce qu'on va mettre à l'Europe des gens qui prêtent allégeance en allant à Moscou, en allant voir Vladimir Poutine ? Ou allons-nous mettre à l'Europe des personnes qui, encore, ne condamnent pas, ou sinon sur le bout des lèvres, l'assassinat de Navalny ? Merci. La question, elle est là. Non, nous avons besoin d'une Europe forte et d'une Europe libre, indépendante. Et on ne peut pas laisser monter cet extrême. Et donc, nous avons un devoir de message à porter. C'est-à-dire que le Rassemblement national, aujourd'hui, surfe qu'avec de la communication. Il surfe sur la communication du mécontentement général, on va dire, des citoyens envers leur parti en général. Voilà.
Qui n'est pas faux, qui est réel.
La première, qui va surfer sur... le scepticisme des citoyens envers l'Europe. On en a parlé précédemment, le fait qu'ils connaissent mal l'Europe et qu'ils pensent que l'Europe est l'origine de tous leurs maux.
C'est un sujet de fond de roulement. Ça l'était déjà avant.
Sauf que la réalité n'est pas là. La réalité, c'est pas ça. Et on a un exemple concret aujourd'hui. C'est que, regardez, en Italie est arrivée au pouvoir Giorgia Meloni et Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, je ne me servirai pas de l'Europe. Nous sommes un pays indépendant, un pays libre, un pays fort. Résultat des courses, première crise qui s'est passée en Italie, qu'a-t-elle fait? Elle s'est retournée vers l'Europe. Elle a eu besoin de l'Europe, parce que seule, elle ne pouvait pas y arriver. Donc la communication, c'est bien, mais ça n'a qu'un temps. Et la réalité rattrape très souvent la communication. Et aujourd'hui, il faut montrer qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision, à part faire croire qu'eux, une fois au pouvoir, ils auront la baguette magique qui va tout changer.
Mais 30% d'intention de vote, c'est énorme. Et donc, c'est un sujet qui va revenir... On l'a vu lors du premier meeting qui a été tenu justement par la candidate Madame Hayet, on a très bien vu que c'était un sujet de fond dans sa campagne. Ça ne suffit pas. Il faut bien sûr débattre des projets aussi que vous avez, du programme que vous proposez, mais de rappeler aussi le danger que cela puisse représenter.
Bien sûr, c'est un véritable danger pour notre démocratie, pour notre paix, pour la paix que nous avons aujourd'hui au sein de l'Europe. La guerre est aux portes de l'Europe et il ne faut pas mettre à l'Europe et à la tête de l'Europe des personnes qui sont les amis de Vladimir Poutine.
Comment vous, justement, puisqu'on parle d'Europe, qu'on parle de défense, comment vous voyez le positionnement du président Macron qui a encore été réitéré récemment sur un soutien à l'Ukraine qui pourrait aller jusqu'au fait d'apporter un soutien avec des troupes. Vous êtes tout à fait d'accord avec ce positionnement?
C'est un positionnement de la France qui est de l'aide à l'Ukraine depuis le départ. Dès le départ de l'invasion russe en Ukraine.
Après avoir essayé quand même de parlementer avec Poutine, ce qui s'est révélé compliqué.
Bien sûr.
On essaie toujours la paix d'abord.
On essaie toujours la paix, mais c'est impossible de discuter avec Poutine, impossible de discuter avec un dictateur.
Réélu, rappelons-le, aujourd'hui 89% des suffrages.
On en parle de la manière dont s'est passé les élections en Russie, pas la peine, on le sait tous. Donc c'est un faux problème. Aujourd'hui, nous avons un président à la tête de la France qui démontre que si la Russie gagne cette guerre, c'est les Européens et la France qui est en danger. Voilà. Donc, il ne dit pas qu'il va envahir la Russie, qu'il va être le déclencheur d'une offensive. Pas du tout. Il dit juste, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Nous serons prêts, le cas échéant. Mais le cas échéant, si c'était tout le monde qui le décidait.
Bien sûr.
Quand on parle des troupes à terre, il faut savoir qu'on en a déjà en Ukraine. Elles sont là pour gérer la logistique, pour gérer les cyberattaques, pour aider l'armée militaire dans la formation, de ses officiers et les accompagner. Je crois qu'il est important de montrer, même si on n'en a pas envie, personne n'a envie d'une guerre.
Évidemment.
Personne ne le souhaite.
Mais qu'on ne se laissera pas faire.
Qu'on ne se laissera pas faire, qu'on ait une puissance. Et je crois que si on se rappelle un peu de la guerre en 1940, Churchill était l'homme le plus détesté. Résultat des courses, après, on voit le résultat.
D'ailleurs, le président.
Donc, il faut tenir tête et montrer que nous sommes une puissance, la France, mais l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut que cette Europe soit. Libre, démocratique, et qu'elle le reste pour pouvoir nous défendre.
Alors je voudrais terminer avec cette fois-ci un sujet moins européen, mais qu'on revienne à vos compétences, à la région, la compétence économique. Je voudrais qu'on dise un mot du prêt qui a été lancé par la région, le prêt à taux zéro pour les entreprises qu'on appelle Mon Prêt TPE. Quelles en sont les caractéristiques? Qui a le droit à ce prêt et depuis quand et pourquoi?
Alors, c'est un sujet que nous avions évoqué en région parce qu'il y a une conjoncture qui est un petit peu difficile pour les TPE dans notre pays depuis les différentes crises qui se sont succédées. Et donc, on a voulu donner un petit coup de pouce à ces entreprises qui ont besoin d'une petite enveloppe financière pour leur permettre de se développer ou d'avoir un rebond au regard de la conjoncture actuelle qui est un petit peu difficile pour certains. Et donc, c'est un prêt TPE que nous avons lancé avec Renaud Muselier, Mon Prêt TPE, qui est un prêt de 15 000 euros, enfin de 5 000 à 15 000 euros, qui est un prêt à taux zéro et sans garantie, ni caution.
On n'a pas de garantie de caution apportée au départ.
Voilà, parce que quand justement une entreprise est en difficulté,
et c'est pas le moment de demander des garanties financières.
Voilà, elles ne les auront pas. Et donc, nous pensons qu'on peut être le déclic qui leur permette justement d'avoir ce rebond nécessaire à la continuité de leur entreprise.
Les critères sont moins exigeants qu'un prêt qu'on demanderait auprès d'une banque, en fait.
Exactement. Exactement. D'accord. C'est la raison pour laquelle on a souhaité créer ce prêt avec, en plus, si on le souhaite, un différé de l'amortissement sur 12 mois.
D'accord.
Donc, vraiment, on est le coup de pouce pour aider nos entreprises.
Donc, c'est un guichet régional. C'est à la région qu'on s'adresse.
sur la, le portail de la région, il y a
un guichet région.
Voilà, et après, c'est nos réseaux partenaires
qui ensuite gèrent bien sûr derrière.
Qui en font l'instruction des dossiers.
En back-office, bien sûr. Voilà. Mais c'est vraiment la région
sur
qui
la
porte
région,
ce prêt.
Et je m'inscris, j'ai pu.
Il est effectif depuis début mars.
C'est tout nouveau.
Et vous avez déjà eu beaucoup de demandes?
Oui.
Oui. Donc, il y avait une vraie nécessité.
Il y a une vraie nécessité. Même si on sait que nous avons un territoire très résilient, et là, nous avons eu dernièrement, avec la mission Rebond Industrie, une restitution du cabinet EY sur comment se porte l'économie industrielle sur notre territoire et des entreprises. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne nouvelle parce que nous sommes, au niveau, par rapport au niveau national, un des territoires les plus dynamiques, là où les entreprises créent le plus d'emplois, là où il y a le plus de création d'entreprises et là où les entreprises investissent le plus.
Il y a une volonté nationale de faire repartir l'industrie sur notre territoire. On a assez souffert pendant le Covid pour se dire qu'il fallait relancer l'industrie.
Il y a évidemment une volonté nationale, mais elle est couplée, je crois, avec la volonté qu'on a eue,
ici,
nous, en région,
territoire.
Avec ce 100% climat que nous avons fait à la région, ce plan 100% climat, et cette volonté de souveraineté industrielle en région. Et donc, parallèlement à ça, à la planification écologique et à tous les outils que nous avons mis en place d'attractivité économique avec notre agence de développement économique Rising Sud, je crois qu'aujourd'hui, les résultats sont là et on peut se satisfaire de ce travail collectif qui a été réalisé, de voir que les entreprises s'implantent, qu'on va avoir 1500 emplois d'un côté, 2000 de l'autre, aux alentours de 11 000 emplois demain. Je crois que c'est une belle réussite pour notre territoire.
On n'est pas sur les mêmes échelles, puisque, comme vous le dites, les TPE, ici, sur notre territoire, on a un tissu économique de petites et de très petites entreprises à 90% hein, à peu près. Et donc là, c'est vraiment pour aider ces entreprises-là où souvent ce sont simplement un patron avec deux salariés, voire même un salarié, sont vraiment des petites entreprises. Mais c'est celles-là aussi qu'il faut aider parce qu'elles sont le tissu économique de la région.
C'est la raison pour laquelle nous sommes le premier partenaire des entreprises. On est là pour les petites.
C'est votre compétence première.
C'est notre compétence première et nous sommes attentifs à chaque entreprise parce que, comme vous le dites, même les petites entreprises créent un emploi, parfois leur seul emploi, mais c'est un emploi de gagné. Et donc, je crois qu'il ne faut pas les lâcher et être toujours à leur côté.
Les fournisseurs de nos industriels aussi. Donc,
exactement.
Tout ça fait un tissu qu'il faut porter. Il y a une cohérence, en fait, dans ce travail que vous faites. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci,
Elsa,
pour cette invitation.
Une bonne semaine, hein, puisqu'elle ne fait que commencer. Je présume qu'elle est chargée.
Oui.
Comme toutes les semaines.
C'est ça.
Très bonne journée à vous.
Merci.
Le journal politique de Radio JM.